VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Et bienvenue à l'édition du jeudi 21 mai 2015. À la une ce soir.
Burundi, la police continue de réagir avec force contre les manifestants s'opposant à un troisième mandat du président Nkurunziza, tuant deux d'entre eux aujourd'hui dans la capitale.
Le président américain Barack Obama reçoit à la Maison-Blanche son homologue tunisien Bejikaid Essebsi.
Deuxième victoire en quatre jours pour les djihadistes de l'État du groupe État islamique. Après Ramadi en Irak, ils se sont emparés de la ville historique de Palmyre en Syrie.
Ici aux États-Unis, une fuite de pétrole contraint les autorités à décréter l'état d'urgence dans la zone touristique de Santa Barbara en Californie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Nous ouvrons au Burundi où au moins deux manifestants ont été tués par les tirs de la police ce jeudi à Bujumbura. La contestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza a repris de plus belle malgré la riposte musclée des policiers. Précision, Jacques Aristide.
La Croix-Rouge burundaise a confirmé à l'AFP ce bilan de deux morts et fait état de 8 blessés. Ces équipes n'ont toutefois pas eu accès à Musaga en raison de l'intensité des tirs dans ce quartier de la capitale. D'après un porte-parole de l'ONG, laissant entendre que le bilan pourrait être plus élevé. Ailleurs, à Ngagara, des affrontements ont éclaté avec un groupe d'une centaine de contestataires près de l'Assemblée nationale, réunis en session extraordinaire pour la prestation de serment de trois nouveaux ministres. Les policiers déployés en nombre autour du bâtiment ont ouvert le feu. Au moins deux manifestants ont été blessés par balles, dont l'un grièvement touché à la tête et décédé peu après, d'après l'AFP. Sur le front international, la Belgique a averti ce jeudi qu'elle arrêterait son aide directe au Burundi en cas de troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
Les troubles de ces derniers jours ont forcé plus de 110 000 personnes, des femmes et des enfants pour la plupart, à fuir dans les pays voisins. Mais une fois arrivés en Tanzanie, où bon nombre d'entre eux se sont réfugiés, ils sont exposés au choléra. D'après l'UNICEF, la maladie a fait 27 morts parmi les dizaines de milliers de réfugiés burundais dans le nord-ouest de la Tanzanie. Une situation liée à la surpopulation et aux mauvaises conditions sanitaires.
Poursuite judiciaire dans le cadre du génocide rwandais, la Cour fédérale allemande a ordonné qu'un ancien maire rwandais soit rejugé en raison de son rôle actif dans le massacre. Onesivore Rwabukombe a été condamné l'an dernier à 14 ans de prison pour complicité dans le génocide. Il y a maintenant la possibilité d'une condamnation pour participation, avec comme conséquence une peine de réclusion à perpétuité, indique l'AFP.
L'insurrection de Boko Haram a causé une des pires crises humanitaires d'Afrique. Tel est le constat du comité international de la Croix-Rouge, qui estime que des fonds supplémentaires sont nécessaires afin de porter secours aux victimes. L'organisation insiste sur le besoin d'aide aux victimes de violences sexuelles enlevées par le groupe islamiste. Le CICR critique aussi des associations humanitaires pour leur manque de réactivité.
Le président américain Barack Obama devait recevoir à la Maison-Blanche son homologue tunisien Bejikaid Essebsi. La Tunisie souhaite une hausse de l'assistance militaire américaine pour lutter contre la menace djihadiste. On fait le point avec Idriss Fall.
C'est la deuxième fois que Barack Obama reçoit Bejikaid Essebsi, qui était déjà venu à la Maison-Blanche en 2011 en tant que premier ministre de la transition. Si les États-Unis et d'autres aident la Tunisie, oui, nous pouvons devenir un modèle, a lancé hier le président tunisien au premier jour de sa visite. Dans sa conférence à l'Institut de paix, il a répété que les Libyens ne se battent pas contre le terrorisme, mais se battent les uns contre les autres. Autrement dit, aidez-nous à affronter les djihadistes. La Maison-Blanche a demandé au Congrès d'approuver en faveur de la Tunisie une enveloppe de 138 millions de dollars, dont 62 millions pour la partie militaire. Washington a déjà annoncé la livraison de 52 véhicules militaires et d'un navire de patrouille à l'armée tunisienne et Tunis doit encore recevoir 4 autres navires américains. Le secrétaire d'État John Kerry, qui s'était rendu en Tunisie en février, a signé hier avec son homologue tunisien un document pour renforcer et étendre le partenariat stratégique entre Washington et Tunis.
11 personnes sont mortes dans de nouvelles violences en Libye. Des sources médicales citées par l'AFP comptent 10 soldats tués dans des accrochages à Benghazi, contrôlés par les milices islamistes. Par ailleurs, un combattant de la coalition de milices de Fajr Libya a été tué aujourd'hui près de Misrata dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique.
De son côté, la branche égyptienne du groupe État islamique appelle ses partisans à s'attaquer aux juges. D'après l'AFP, en riposte à la pendaison d'hommes reconnus coupables d'avoir mené des attaques au nom de l'organisation djihadiste, Amnesty International avait qualifié d'injuste leur procès basé uniquement sur les témoignages d'officiers de la police secrète.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au moins 40 rebelles ont été tués ce jeudi dans un raid de l'armée de l'air du régime syrien sur un quartier de la métropole d'Alep, dans le nord de la Syrie. C'est ce que rapporte l'AFP, citant l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONG basée à Londres, le bilan pourrait s'alourdir en raison d'un grand nombre de blessés graves.
D'autre part, le groupe djihadiste État islamique s'est emparé aujourd'hui de Palmyre, une ville du désert syrien classée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Après la prise de Ramadi en Irak il y a 4 jours, cette victoire rend les djihadistes maîtres de la moitié du territoire syrien. Salwa Jafari.
L'euphorie des combattants de l'État islamique au moment de la prise de Palmyre. Dans le reste du monde, c'est la consternation. C'est la première fois que le groupe s'empare d'une ville directement contrôlée par les forces de Bachar el-Assad, une prise aussi monumentale que les vieilles colonnes qui couronnent le site. 2000 ans d'histoire pour y partir en fumée, sous le regard impuissant de l'humanité. L'UNESCO appelle le monde à réagir. Sa présidente tente même de dissuader les assaillants.
Nous pouvons avoir des croyances différentes, nous pouvons avoir des opinions différentes, mais nous devons protéger ces vestiges incroyables de l'histoire humaine. La destruction du patrimoine ne mènera à rien. Détruire un tel patrimoine ne signifie pas que vous avez réalisé une sorte de victoire.
En Irak, l'organisation s'est livrée à un nettoyage culturel en rasant une partie des vestiges de la Mésopotamie antique. En Libye, plusieurs mausolées ont été détruits par des islamistes extrémistes à coups de pelleteuses et d'explosifs. Palmyre, la perle du désert syrien, a de fortes chances de subir le même sort.
Au Yémen, nouveau raid aujourd'hui contre les positions des rebelles houthis soutenus par l'Iran. De sources concordantes, on apprend que les avions de la coalition menée par l'Arabie Saoudite ont frappé des cibles dans le sud-ouest et le centre du pays. Depuis le 26 mars, la coalition mène une campagne aérienne contre la rébellion chiite pour l'empêcher de prendre le contrôle de l'ensemble du Yémen après qu'elle s'est emparée de la capitale Sanaa et de vastes territoires. Territoire du nord, du centre et de l'ouest.
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a accusé les deux camps dans le conflit ukrainien de violer le cessez-le-feu. Le directeur adjoint de la mission spéciale de contrôle de l'OSCE en Ukraine, Alexander Hogg, a déclaré que l'armée nationale et les rebelles séparatistes ont continué à lancer des attaques, se servant d'armes qui auraient dû être retirées du front. Les belligérants avaient pourtant affirmé le retrait de leurs armements lourds, conformément aux accords de Minsk.
Et le département américain du Trésor a annoncé aujourd'hui des sanctions contre la ligne aérienne irakienne Al Nasser, accusée d'acheter des avions d'occasion en Europe pour les revendre à l'Iran. C'est une violation de l'embargo imposé par Washington à la République islamique depuis 1995. L'AFP rappelle que cet embargo a été partiellement levé par l'accord intérimaire sur le nucléaire iranien, signé récemment entre Téhéran et les puissances occidentales.
L'état d'urgence a été décrété dans la zone touristique de Santa Barbara en Californie à la suite d'une fuite de pétrole brut au nord-ouest de Los Angeles. Il s'agit là d'une des pires marées noires qu'ait connu cet état de l'ouest américain depuis 1969, Eddie Isango.
Le gouverneur Jerry Brown a pris cette décision 24 heures après la découverte de cette fuite de pétrole dans une zone touristique à Refugio State Beach. L'état d'urgence permet à la Californie de débloquer ainsi les sommes prévues pour aider à nettoyer les zones polluées. La fuite aurait été causée par la rupture d'un oléoduc. La nappe polluante s'étend maintenant sur 14 km et le long de la côte pacifique. La compagnie responsable de l'oléoduc a présenté ses excuses pour les dégâts causés à l'environnement et assuré qu'elle poursuit les opérations de nettoyage 24 heures sur 24. Plusieurs groupes écologistes s'alarment des éventuelles conséquences à long terme de cette marée noire. Selon les dernières estimations des autorités, mercredi après-midi, la fuite a été estimée à environ 400 000 litres, dont 80 000 litres déversés dans l'océan.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi la privatisation de ses parts dans le capital de la société Sucre Ivoire. Ses parts s'élèvent à 23%. Le gouvernement ivoirien va céder 5% de ses parts aux salariés de la société et les 18% qui restent seront cédés à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières, a déclaré Bruno Kone, porte-parole du gouvernement ivoirien. En République démocratique du Congo, plus de 180 000 dollars disparaissent chaque mois du circuit de la paix des agents et fonctionnaires de l'État. Le ministre du Budget qui a révélé cette information affirme que des enquêtes sont en cours pour démanteler ce réseau mafieux. Selon Michel Bongongo, le manque à gagner pour l'État congolais s'élève à 2 173 000 dollars américains par an.
Ces statistiques ne concernent que le seul secteur de la santé, et plus précisément les médecins. Ce tableau sombre démontre à suffisance comment une mafia organisée s'est installée dans ce secteur.
Et à New York, les cours du pétrole ont ouvert en hausse aujourd'hui face à une actualité plutôt favorable au marché, avec une nouvelle diminution des réserves de brut aux États-Unis et des troubles au Moyen-Orient qui pourraient menacer l'approvisionnement. Ce sont les préoccupations géopolitiques qui soutiennent les cours, a jugé John Kilduff d'Egan Capital. Cela ne fait qu'attiser la nervosité à propos de l'ensemble de la région et donc de sa production de pétrole, a-t-il ajouté, estimant que des investisseurs pourraient passer à l'achat par précaution un week-end de 3 jours aux États-Unis où la journée de lundi sera fériée.
La Minute Éco, c'était avec Jean-Roger Billon. Merci.
Place au sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Parlons d'abord de l'entraîneur ivoirien Rigo Gervais qui est sur la route de l'AS Kaloum en Guinée.
Oui, les négociations seraient très avancées entre l'entraîneur du Sewe Sport San Pedro et les dirigeants du club guinéen. Le contrat pourrait même être signé d'ici le week-end selon une source proche du dossier joint par VOA Afrique. Rigo Gervais va remplacer à ce poste un autre ivoirien, François Zaoui, qui lui est parti il y a quelques semaines pour diriger le MENA du Niger.
Présidence de la FIFA, Luis Figo est-il toujours intéressé?
Non, selon l'AFP, l'ancien joueur vedette portugais, Luis Figo, a annoncé ce jeudi à son tour sa décision de se retirer de la course à la présidence de la FIFA, à l'instar du néerlandais Michael Van Praag, laissant ainsi le prince Ali, seul candidat en lice face au dirigeant sortant Sepp Blatter.
C'est pas trop mauvais comme nouvelle pour Sepp Blatter, Bagassi Koura. Et puis il y a les accusations qui continuent concernant les conditions de travail des migrants au Qatar.
En Afrique, parlant de Sepp Blatter, en Afrique on dirait que son marabout, son ganga est très fort.
Et il a bien travaillé. Et au Qatar, il n'est pas question de marabout, il est question de difficultés pour les migrants qui travaillent là-bas. Et pourtant, le Qatar accueille le Mondial 2022.
Oui, Amnesty International a accusé aujourd'hui le Qatar de n'avoir pas tenu sa promesse de réforme de sa législation du travail pour les migrants au centre de vives critiques en vue de l'organisation du Mondial 2022, comme vous dites dans le dernier de ses rapports, dénonçant des abus. Amnesty accuse le riche émirat gazier du Golfe d'avoir failli à sa promesse faite en 2014 d'introduire des réformes dans des domaines cruciaux.
Et il faut dire aussi que le Belge Philippe Gilbert apparemment a obtenu un bon résultat dans le Tour d'Italie.
Oui, il a remporté la 12e étape donc de ce Tour d'Italie. C'était ce jeudi donc au Monte Berico sur les hauteurs de Vicence. L'espagnol Alberto Contador de l'équipe Tinkoff lui, est toujours porteur du maillot rose. Hein. Tu as remarqué qu'on ne dit pas maillot jaune. Maillot rose. Hein,
de mon temps, c'était donc, jaune.
La deuxième place de l'étape. Non, c'est une spécificité du Tour d'Italie.
Ah, voilà. On apprend toujours à tout âge. Parlons basketball, Bagassi, rapidement.
Eh bien, le premier match de la finale hein, de la conférence et le beau succès de Cleveland. Hein, conférence Est. Et le beau succès hein, de Cleveland à Atlanta, 97 à 89. Excellent LeBron James qui permet aux Cavaliers de l'emporter grâce à 31 points.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chirumain Dorsil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, notre premier dossier ce soir concerne la sécurité au Burundi, Gabi.
Oui, malgré les manifestations contre le troisième mandat du président burundais, il faut dire d'abord que les trois nouveaux ministres du gouvernement ont prêté serment aujourd'hui. Après l'échec du coup d'État, le président Pierre Nkurunziza avait limogé trois ministres, dont celui de la Défense. Et sur les défis qui attendent le nouveau patron de la défense, Idriss Fall a joint à Bujumbura, le colonel Gaspard Baratuza, porte-parole de l'armée burundaise.
C'est aujourd'hui, le 21 mai 2015, que les trois ministres qui viennent d'être nommés par le président de la République ont prêté serment dans l'hémicycle du Parlement à Kigali, en face du président de la République. Et le Parlement réuni, comme il est de possible, était comme ça que ça se fait. Il s'agissait du ministre en charge de la défense nationale et des affaires combattantes, du ministre de la sécurité et de la coopération internationale, ainsi que du ministre du commerce.
Pour le ministère de la défense, est-ce qu'il y a eu passation de service ou bien est-ce qu'il y aura passation de service?
Et le ministre de la défense n'est pas encore venu dans son bureau. Mais il est attendu d'un moment à l'autre. Donc, il y aura une remise de reprise avec le sortant. Il n'y a pas de problème.
Et son prédécesseur, il est où?
Son prédécesseur, je crois qu'il doit être à la maison puisqu'il a un congé de convalescence. Il a un repos médical. Il a été accidenté. Son véhicule a été tombé lorsqu'il est roulé. Alors, il a eu un accident léger, mais il est sous convalescence.
Le nouveau ministre, il aura beaucoup de défis quand même, parce que ce sont des officiers qui ont tenté le coup d'État, avorté le 13 mai, non?
Les officiers, mais s'il s'agit des officiers, avoir la taille de l'armée burundaise, pas de l'officier.
Mais quand même, ce sont des soldats et que ça va laisser des traces au sein de l'armée.
Là, chacun, chaque personne a dans sa tête sa pensée, mais la réalisation en est autre. On n'a pas avancé. Vous direz que la majorité le.
Cette armée aujourd'hui est une armée essentiellement composée de soldats Hutus. Pourquoi avoir choisi un Tutsi pour le mettre à la tête de l'armée?
Je crois que cette hypothèse est fausse. Personne n'a fait le recensement pour le dire ainsi. Nous qui connaissons bien l'armée burundaise, cette affirmation est fausse. Aujourd'hui, lors du mandat d'intégration en 2005, on avait l'intention, l'objectif, mais 50% de l'objectif. Alors, au fur et à mesure de l'occupement et de la retraite, le recrutement, puis le principe de recrutement à 50% d'entrée à l'ISCAF. Alors, qui dit qu'il y a un déséquilibre de majorité de l'occupement?
On écoutait le colonel Gaspard Baratuza, porte-parole de l'armée burundaise.
Et n'oubliez pas de retrouver toutes les dernières infos sur la crise burundaise sur notre site internet voafrique.com. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a tenu en début de semaine à Accra, au Ghana, son 47e sommet. Les chefs d'État de la région ont abordé plusieurs sujets, dont celui de la transition au burkinabé. Ils ont insisté sur le maintien de la date du 11 octobre 2015 pour la tenue de la présidentielle au Burkina Faso. Et les chefs d'État ont également mis en garde contre toute exclusion dans le processus électoral. Alors pourquoi les dirigeants de la CEDEAO se sont-ils sentis obligé de faire de telles déclarations? La réponse d'Ismaël Diallo, ancien fonctionnaire des Nations Unies et président du Front de renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou.
La CEDEAO l'a fait probablement en en pensant que nous avons, nous, au Burkina Faso, nous avons dans la loi sur le code électoral exclu des personnes. Mais nous n'avons exclu personne. Pour qui lit la loi, c'est une loi qui n'exclut pas des individus, mais c'est une loi simplement qui sanctionne des personnes qui ont voulu corrompre la Constitution. Et nous sommes très surpris de cette décision de la CEDEAO.
Peut-être que malgré toutes les explications, les Burkinabés n'ont pas encore pu convaincre la communauté internationale que cette loi n'est pas une loi exclusive.
Nous n'avons peut-être pas pu convaincre certaines personnes physiques et morales, mais simplement pas parce que nous n'avons pas d'arguments ou que nos arguments ne sont pas justes, mais parce que ces personnes ont d'autres intérêts et qui ne sont pas les intérêts du Burkina Faso. Je le dis sans embâche. Où étaient ces personnes en octobre 2014, lorsque le pouvoir d'alors a voulu corrompre la Constitution pour pérenniser le pouvoir de celui qui était président? Où était le président de la Côte d'Ivoire pour ne pas le nommer? Où était le président de la commission de la CEDEAO pour ne pas le nommer?
Et Alassane Ouattara, à son retour à Abidjan, a aussi parlé du fait que l'exclusion ne sera pas acceptable au Burkina Faso.
Oui, mais il prend vraiment une très grande liberté de dire en tant que président de la Côte d'Ivoire que l'exclusion ne serait pas acceptable au Burkina Faso. Eh bien alors, qu'il use des moyens qu'il a en tant que président de la Côte d'Ivoire pour venir nous obliger, nous, au Burkina Faso, à revenir sur la loi que nous avons adoptée.
Alors, ils ont aussi, les chefs d'État de la CEDEAO, insisté sur la date du 11 octobre 2015 pour les élections présidentielles. Est-ce qu'au Burkina Faso, il y a un débat sur le report éventuel de ces élections?
Il n'y a pas de débat au Burkina Faso sur le report des élections présidentielles et législatives programmées se tenir le 11 octobre 2015. Il y a, oui, quelques individus qui parlent de la nécessité, prétendent-ils, de reporter la date de ces scrutins, mais les arguments donnés sont fallacieux et ce sont des intérêts cachés, bien entendu.
Ismaël Diallo, président du Front de renforcement de la citoyenneté, il était joint par Bagessi Koura.
Un rapport publié hier par l'ONG écologique Greenpeace accuse les chalutiers chinois de piller les ressources halieutiques des pays ouest-africains. Selon l'ONG, des centaines de ces bateaux pêchent une quantité non déclarée de poissons au large des côtes de la Gambie, de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal, entre autres, ayant recours à des méthodes destructrices interdites dans divers pays, y compris en Chine. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint à Dakar, au Sénégal, El Ali Haïdar, président d'Océanium, une association de protection de l'environnement.
Les ressources de l'Afrique, en général, sont pillées par les multinationales, sont pillées par des mafias, des mafieux, parce qu'en face, très souvent, hélas, des gouvernements faibles ou des gouvernements corrompus sont avides de trouver de l'argent. Mais je trouve la mémoire de Greenpeace trop sélective, parce que on ne doit pas et on ne peut pas accuser seulement des bateaux chinois alors que d'autres bateaux, notamment de grands groupements qui sont ici, font exactement la même chose et personne ne parle d'eux. Et je trouve même inquiétant que le chargé de communication de Greenpeace Sénégal, M. Koulibaly, soit le frère du groupement des armateurs industriels du Sénégal, qui est M. Koulibaly.
Quelle est la situation que vous déplorez au niveau de votre pays?
Ce que je déplore au niveau de l'Atlantique en général, c'est que vous savez, si vous vous rappelez, en 2006, on avait des accords avec l'Union européenne qui permettaient aux bateaux de l'Union européenne de pêcher le démersal côtier, donc en concurrence avec la pêche artisanale, qui permettait de pêcher le petit pélagique, donc en concurrence avec la pêche artisanale, qui permettait de pêcher le thon, notamment le thon listao, qui n'est pas en concurrence avec la pêche artisanale, parce que la pêche artisanale n'a pas accès à ses ressources, et qui permettait de pêcher le démersal profond, et qui n'est pas en concurrence avec la pêche artisanale. Quand en 2006, on a arrêté ces accords de pêche, les bateaux industriels n'ont pas quitté le territoire sénégalais. Les bateaux sont restés là, ils ont monté des sociétés, ils ont installé un mécanisme financier qui leur permet, et tous autant qu'ils sont, qui leur permet de pêcher nos poissons, de l'expédier dans leur pays, et cela sans payer de droits. Quand ils n'ont pas assez pêché, ils se permettent même d'aller dans les marchés et dans les villages de pêcheurs pour acheter du poisson, et ils exportent 100% de ce produit-là vers leur pays.
Que faut-il
faire? Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est avoir une volonté politique très forte très forte, et quand je parle de volonté politique forte, c'est-à-dire un engagement, une détermination à mettre de l'ordre dans ce marigot de requin, parce qu'en réalité, ce n'est qu'un marigot de requin avec des mafieux très, très puissants.
El Ali Haïdar, président d'Océanium, nous parlait de Dakar.
L'Organisation de coopération et de développement économique tire la sonnette d'alarme. Les inégalités de revenus ont atteint des proportions sans précédent et menacent à long terme la croissance économique. Quelles sont les sources de ces inégalités et comment y remédier? Nous avons discuté des résultats de ce rapport avec l'une des économistes qui l'ont préparé, Annalena Nozal.
Ce qu'on analyse, c'est que la croissance des inégalités a augmenté pendant les deux ou trois dernières décennies et que ce n'est pas un phénomène juste de la crise et que c'est un phénomène global qui donc se situe dans des pays à faible inégalité comme les pays nordiques, mais aussi des pays à forte inégalité comme les États-Unis. On analyse également les pays émergents. Dans ces pays, on voit que quand même dans certains, il y a une tendance à la baisse en Amérique latine, mais dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, la Russie et l'Inde et l'Indonésie, les inégalités aussi continuent à se creuser.
Et qu'est-ce que vous avez relevé comme principaux facteurs à la base de ces inégalités ?
Précédemment, on avait beaucoup parlé du rôle des prestations sociales, de la redistribution, mais aussi de la globalisation. Dans ce rapport, on se centre surtout sur le marché du travail. Donc d'un côté, on trouve que l'emploi des femmes, généralement, sert à freiner ces inégalités. L'augmentation de la participation des femmes dans beaucoup de pays de l'OCDE a permis donc de réduire les inégalités de 1 à 2%. Mais d'un autre côté, on trouve qu'il y a une forte croissance dans certains pays de l'OCDE de ce qu'on appelle les emplois non standards.
Et quand vous dites emplois non standards, vous voulez parler d'emplois non stables, non permanents ?
Des emplois temporaires, à temps partiel.
Alors, quand on considère les données de ce rapport, y a-t-il lieu de s'alarmer ?
Cette croissance se creuse et c'est un impact pas seulement social, mais aussi économique. Donc il est temps aussi d'agir sur cela et de créer des emplois de qualité, de promouvoir l'emploi des femmes et aussi l'éducation et une meilleure redistribution et des politiques sociales.
Est-ce que vous venez là de mentionner quelques pistes de solutions ? C'est justement ce que j'allais vous demander.
On propose ces quatre grands axes qui ne sont pas forcément les seuls, et en même temps d'être sûr que le système d'imposition permette donc à tous donc de payer selon leur capacité, surtout dans cette période de crise.
Annalena Nozal, l'économiste de l'OCDE que j'ai jointe à Paris.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel, au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Au Burundi, la police continue de réagir avec force contre les manifestants qui s'opposent à un troisième mandat du président Nkurunziza, tuant deux d'entre eux aujourd'hui dans la capitale Bujumbura.
Le président américain Barack Obama reçoit à la Maison-Blanche son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi.
Deuxième victoire en quatre jours pour les djihadistes du groupe État islamique après la ville de Ramadi dans l'ouest de l'Irak. Ils se sont emparés de la ville historique de Palmyre en Syrie. Et ici aux États-Unis, une fuite de pétrole contraint les autorités à décréter l'état d'urgence dans la zone touristique de Santa Barbara en Californie.
Cette édition touche à sa fin.
On remercie ici à Kaba, Amkoulel pour les intimes qui a dirigé la partie technique. À la présentation, bien sûr, c'était Morgane Guiriec et Chérubin Orsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.